RFI 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Édouard Dupénoit.
Et ce porte-à-porte sanglant à la une de cette édition, RFI a pu recueillir de nombreux témoignages de villageois burkinabés dans le nord-est du pays. Ils décrivent des scènes de carnage dont se serait rendu coupable un convoi de militaires en milieu de semaine. Une mine d'or qui s'effondre au Mali, non loin de la frontière avec la Guinée, mais le site en partie submergé rend les opérations de sauvetage très complexes. Le gouvernorat local craint de nombreuses victimes, en particulier chez les orpailleuses. De victimes, combien y en a-t-il eu au stade du 3 avril à Nzérékoré, en Guinée? Après la bousculade mortelle en marge d'un tournoi de foot, une cinquantaine, dit le bilan officiel. Plus de 130 craignent les acteurs locaux. Cela fait deux mois aujourd'hui que les faits se sont produits. Des enveloppes financières au Sénégal pour les familles des manifestants morts ces quatre dernières années. Ce n'est pas une réparation, disent les autorités. Un peu d'aide en attendant la suite législative des événements. La RDC, bien sûr, dans ce journal. 700 morts au moins à Goma depuis dimanche dernier et la percée du M23.
Et puis des blouses blanches dans toute l'Afrique pour le dossier de ce journal.
Oui, réseau de scientifiques et de médecins. La nécessité de créer un tel réseau s'était imposée après la pandémie de coronavirus. De l'Afrique du Sud au Sénégal, on verra comment il s'est structuré ces dernières années.
Dans la région du Sahel, au Burkina Faso, l'armée suspectée de s'être livrée à un massacre.
Les sources locales que nous avons pu joindre racontent ce qui s'est passé en début de semaine dans au moins deux villages entre Seitenga et Seba, non loin de la frontière avec le Niger. Un convoi de ravitaillement et de relève de l'armée burkinabé, parti de Dori, aurait massacré plus de 20 personnes. Un grand nombre de civils sont encore portés disparus. Le récit signé d'Abdoulaye Diko.
L'armée burkinabé est arrivée à Koulango, près de Titabé, mardi après-midi. Selon de nombreuses sources jointes par RFI, les soldats interpellent les habitants. Maison après maison, carte d'identité ou pas, raconte un témoin, ils exécutent la personne en face. Au moins 23 personnes ont été tuées dans ce village. Toujours, d'après des témoins, quelques heures plus tard, l'armée a commis les mêmes exactions dans les villages de Tchoutibé, non loin de Titabé. Des hommes, des femmes et même des bébés figurent parmi les victimes. Deux frères de mon père ont été tués, témoigne un villageois, qui décrit même ses difficultés à inhumer les corps, abîmés par les balles et en état de décomposition avancée. Seuls ceux qui étaient absents ou qui ont pu fuir ont eu la vie sauve, raconte un villageois. Moi, j'étais de l'autre côté de la frontière, au Niger, pour la vente de mon bétail. À mon retour le soir, ils avaient tué tout le monde dans mon village. Le convoi de l'armée burkinabé mis en cause était parti de Dori lundi dernier. Il est arrivé jeudi à Seba.
Abdoulaye Diko. Le gouvernorat de la région de Koulikoro au Mali redoute un lourd bilan humain dans l'effondrement d'une mine artisanale. Les faits remontent à mercredi dans le village de Danga, cercle de Kangaba, non loin cette fois de la frontière avec la Guinée. Les recherches sont en cours, mais les conditions sont difficiles, notamment parce que les lieux sont en partie sous l'eau. Les autorités locales parlent déjà de plusieurs victimes, David Baché, essentiellement des femmes.
La mine artisanale du hameau de Kokoyo dans le village de Danga n'échappe pas à la règle. Pour trouver de l'or, il faut creuser et il faut descendre en profondeur. Lorsque des éboulements surviennent, les tragédies sont difficilement évitables. Le gouvernorat de Koulikoro indique qu'un groupe d'orpailleurs, en majorité composé de femmes, s'est ainsi retrouvé submergé par une eau boueuse qui a fait des ravages. Des équipes de santé, de la protection civile et des forces de sécurité ont été mobilisées pour porter secours aux blessés et procéder à l'extraction des corps. Un travail extrêmement difficile en raison justement des eaux boueuses. Les images montrent plusieurs pelleteuses à l'œuvre au milieu des roches sablonneuses et des vastes étendues d'eau colorées par la latérite. Sous le regard incrédule des orpailleurs, hommes, femmes, enfants, assistant aux opérations de recherche. Une pelle mécanique a même été engloutie, toujours selon le gouvernorat, qui précise avoir mis en place un dispositif de sécurité pour éviter que ne surviennent d'autres catastrophes.
Un pas supplémentaire a été franchi ces derniers jours dans le réchauffement des relations entre le Bénin et le Niger. Le nouvel ambassadeur du Niger à Cotonou a pu présenter une copie de ses lettres de créance au ministre béninois des Affaires étrangères, Cheikhoun Bakary. Il s'est entretenu avec lui hier pendant un peu plus d'une heure. Cela fait un peu plus de deux mois que Chaibou Kakadé a été nommé ambassadeur. On rappelle que les relations entre les deux voisins a achoppent toujours sur la question de leurs frontières. Niamey la maintient fermée de son côté en suspectant toujours le Bénin de vouloir le déstabiliser. Mais le dégel se voit aussi dans le prochain chargement de pétrole brut descendu du Niger au port de Semekpoji dans quelques jours. Un bateau doit arriver sur cette plateforme béninoise le 3 février prochain.
Il y a tout juste deux mois aujourd'hui, la finale d'un tournoi de foot virait au drame dans un stade de Guinée.
C'était le 1er décembre pour la finale d'une compétition organisée en soutien au président de la transition Mamadi Doumbouya Nzérékoré au stade du 3 avril. Le bilan officiel fait toujours état de 56 morts dans cette bousculade, mais plusieurs organisations locales en dénombrent le triple. 135 morts, dit un collectif d'ONG. Le premier ministre de transition Baouri aurait reçu cette semaine le rapport de la commission d'enquête administrative. Rapport qui n'a pas été rendu public, ce qui sème la confusion au sein de la société civile. Y a-t-il vraiment eu enquête, se demande même Alcéni Sall, porte-parole de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme.
On parle de plus de 100 morts quand même dans un stade. Il est important quand même que, quel que soit ce qui s'est passé, que les responsabilités soient soutenues pour qu'on sache qui a fait quoi et pour permettre aux familles quand même de faire leur deuil.
Et là, actuellement, vous ne pouvez ni confirmer ni infirmer qu'il y a eu une enquête, qu'elle soit administrative ou judiciaire, qui a été ouverte?
Aucunement. On n'a aucune visibilité. Comme je l'ai dit, depuis les annonces et du départ, il n'y a aucune communication du côté du gouvernement. Il n'y a aucune visibilité par rapport à cette situation. Nous demandons à ce que des enquêtes soient faites. Nous demandons aujourd'hui une communication officielle des autorités pour soutenir, en tout cas, les Guinéens, les familles des victimes par rapport à l'évolution de la procédure d'enquête qui avait été annoncée par les autorités à la suite de ces événements.
Alcéni Sall, le porte-parole de l'OGDH, Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, avec Diarouga Aziz Baldé. Les autorités n'ont pas accédé à nos demandes d'entretien. Les autorités sénégalaises, cette fois, font un geste financier en direction des victimes des manifestations des dernières années. Précisément, une enveloppe de 10 millions de francs, 15 000 euros environ, pour chaque famille des 79 personnes mortes dans les manifestations de février 2021 à 2024. Dakar en parle comme d'un premier pas. Une assistance et rien de plus avant la mise en place d'une commission de réparation, chargée d'indemniser les victimes. À Dakar, Léa-Lisa Vesterhoff.
Il ne s'agit pas de réparation ou d'indemnisation, a insisté la ministre de la Famille Maïmouna Diaye hier. Ces 10 millions de francs CFA accordés aux familles de chacune des 79 personnes tuées dans les manifestations de l'opposition ces trois dernières années sont plutôt conçus comme une première mesure d'assistance. Idem avec la décision d'accorder une prise en charge médicale et 500 000 francs CFA à chacun des 2172 ex-prisonniers sous Macky Sall, des personnes emprisonnées à la suite des manifestations de l'opposition entre février 2021 et 2024 et dont le nombre pourrait augmenter au gré du recensement effectué par les organisations de la société civile. La question des réparations reste donc entière. Pour l'heure, elle sera examinée dès que la commission chargée de s'en occuper sera mise en place, assure une source au sein du gouvernement. Pour cela, il faudra d'abord réviser ou abroger la loi d'amnistie, comme l'a promis Ousmane Sonko. Ce texte, adopté dans les tout derniers jours du régime de Macky Sall, exempte de poursuite toutes les personnes arrêtées ou condamnées dans le cadre de ces manifestations. 60 familles qui ont porté plainte pour homicide attendent depuis des mois de pouvoir soumettre leur dossier à la justice. Léa-Lisa Vesterhoff, Dakar. RFI.
À mesure que le calme revient dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'étendue de plus de trois jours de combat commence à se préciser.
Les Nations Unies ont annoncé hier que la violente percée du M23, groupe armé soutenu par le Rwanda dans la capitale provinciale du Nord Kivu, a fait au moins 700 morts et 2800 blessés. Bilan humain amené sans doute à s'alourdir encore. Sur le plan diplomatique, la SADC, la communauté des États de l'Afrique australe, se réunissait hier en urgence au Zimbabwe. Félix Tshisekedi y participait en visioconférence, mais les 4 heures de réunion à huis clos n'ont pas permis de déboucher sur la condamnation du Rwanda aussi fermement que ce que la RDC espérait. Autre volet de cette crise dans l'Est, la couverture médiatique des événements. Vous entendiez hier peut-être sur RFI le patron du CESAC, l'autorité des médias, lister certaines des obligations qui pèsent sur la presse. Ne pas diffuser d'infos sans se référer aux sources officielles, ne pas accorder la parole au M23, à l'Alliance Fleuve Congo, ni, je cite, à des supplétifs qui feraient l'apologie de la rébellion. Une forme de muselière, dénonce dans la foulée le CPJ, Comité de protection des journalistes installé aux États-Unis. Tentative de contrôle de l'information qui, in fine, ne profitera à personne, explique Angela Quintal, responsable du programme Afrique.
Évidemment, avec l'avancée du M23, la pression augmente. Nous avons bien vu que l'autorité de régulation des médias a mis en garde les médias internationaux qui risquent la suspension en cas de faux pas. Mais il ne faut pas oublier non plus le sort des journalistes congolais sur place qui font face à des intimidations. Certains reçoivent même des menaces de mort et celles-ci viennent de tous les côtés. Donc le résultat, ce n'est pas simplement la censure, mais aussi l'auto-censure. C'est évidemment inquiétant car il est essentiel que l'information circule librement, particulièrement dans une situation de crise. Et ça ne s'applique pas qu'à la RDC. Partout dans le monde, il y a des gouvernements qui essayent de contrôler le récit qui est fait de certains événements. Et il n'y a pas que les médias qui sont perdants à ce jeu-là. Il y a aussi le grand public parce que les gens ont besoin de savoir ce qu'il se passe. Ce sont des informations qui sont d'intérêt public.
Angela Quintal est responsable du programme Afrique au sein du Comité de protection des journalistes.
Une initiative panafricaine pour former des scientifiques et des chercheurs. Le dossier de ce journal consacré au programme African Stars.
Un programme que l'on doit à un laboratoire de l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud, ainsi qu'à l'Institut Pasteur de Dakar, tout cela avec l'appui financier de bailleurs privés. Après la pandémie de coronavirus, ces scientifiques africains ont cruellement dû prendre acte du déficit de formation et d'attrait des jeunes blouses blanches pour le continent. L'idée, c'est donc de mettre le paquet financièrement déjà pour des formations, Claire Bargelès, notamment grâce à des bourses d'études.
Alors que l'Afrique porte le poids d'un grand nombre de crises sanitaires, elle manque de scientifiques formés pour y faire face sur place. C'est de ce constat qu'est née cette initiative African Stars, avec l'ambition de créer une génération de jeunes leaders dans le secteur de la santé. Et ce, afin de faire progresser la recherche, mais aussi de permettre la création de nouvelles technologies qui correspondent aux besoins du continent. C'est pourquoi ces bourses visent aussi à développer les compétences entrepreneuriales des futurs diplômés, avec des cours de finance, de gestion de projets ou encore d'innovation. Des besoins qui ont notamment été mis en lumière, selon les scientifiques du programme, durant la pandémie de Covid-19, où le continent est apparu très dépendant de l'importation de vaccins. La première phase du programme financera 131 boursiers sur une période de 3 ans. Ils pourront suivre 4 cursus différents, allant de quelques mois à 2 années, dans des champs comme la génomique, la biotechnologie ou encore les maladies infectieuses. 60% des bourses seront réservées à des femmes et l'ensemble des étudiants devront représenter équitablement les différentes régions africaines.
La formation n'étant en plus que la première pierre de l'édifice, il faut pouvoir retenir ensuite en Afrique les jeunes scientifiques frais et moulus, d'où l'existence d'un programme comme Santé, par exemple, avec un H au milieu, un réseau de recherche autour de la tuberculose et du VIH, propre à l'Afrique subsaharienne. Victoria Kasprovitch est à la tête des programmes de cette organisation.
Par le passé, les recherches étaient traditionnellement menées en dehors du continent, avec des prélèvements exportés à l'extérieur des pays, et cela a contribué à ce que les infrastructures locales ne soient pas suffisamment développées. Si ce modèle continue, la science en Afrique ne va jamais progresser. Je pense que les réponses sont entre les mains des scientifiques africains qui peuvent étudier les questions cruciales sur le terrain. Ils sont les mieux placés pour y répondre de façon optimale. S'il y a de la distance entre les chercheurs et les communautés, cela pourrait conduire, par exemple, à passer des années et dépenser beaucoup d'argent pour créer un vaccin dont personne ne voudra, ce qui serait de l'argent gaspillé. En résumé, il faudrait être moins dépendant d'autres parties du monde. Mais le plus important, c'est que si des vaccins ou autres sont développés à l'extérieur de l'Afrique, ils ne seront jamais adaptés, car il y a ici des données génétiques et des environnements différents qui influencent tout cela. Donc, c'est ce sur quoi on travaille et chaque organisation tente de faire la différence. J'espère que tous ensemble, on avance vers la bonne direction.
Victoria Kasprovitch, qui est donc à la tête des programmes de l'organisation Santé, de ce programme panafricain African Stars, dossier réalisé par notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès. Johannesburg où il est 8h44, RFI Matin continue, et je vous laisse avec Julien Coquel-Rohem.
Et merci Edouard Dupénoit, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'info africaine. Il est 6h44 en temps universel.